Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Un podcast Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. Magie de l'offre et de la demande, alors qu'en fin d'année 2020, on pointait du doigt notre beau pays comme l'un des plus mauvais élèves européens en termes d'appétence pour la vaccination, et qu'on ouvrait grand les plateaux télé à celles et ceux qui portaient la parole du camp du doute, en janvier, revirement, il n'est plus question que de doses rationnées, de livraisons moins importantes que prévues, d'interminables attentes au téléphone pour trouver un créneau afin de recevoir la piqûre tant convoitée. Ceci étant dit, si la présentation médiatique de notre attitude collective face au vaccin a changé, ça ne veut pas dire que toutes les réticences ont disparu, que les médecins ne doivent pas continuer à développer des trésors de pédagogie pour rassurer leurs patients, et qu'il vous faille très prochainement vous muer en biologiste amateur pour convaincre votre maman, votre grand-père ou votre cousine du bienfait à la fois pour eux et pour nous tous de la vaccination. À ce moment-là, vous repenserez peut-être à notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Car étant nous-mêmes à des degrés divers confrontés autour de nous, à de la méfiance et à de l'inquiétude sur le sujet, des sentiments qu'il ne sert à rien d'ailleurs d'écarter d'un revers de main, on a eu envie d'aller discuter avec quelqu'un qui passe beaucoup de temps depuis quelques semaines à désamorcer la peur du vaccin. C'est le docteur Hugues Ben Saïd, il est médecin généraliste dans les Hauts-de-Seine. Il intervient à la fois en maison de retraite et dans son cabinet en ville, et la vaccination, c'est son quotidien, depuis un mois maintenant. Je suis allé le voir et je lui ai demandé s'il avait ressenti chez ses patients cette réticence dont on a tant parlé.
Au tout début, effectivement, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'appréhension. Une fois qu'on a commencé à communiquer sur les vaccins, à communiquer sur les études, que les médecins eux-mêmes ont commencé à se faire vacciner, les patients ont commencé là à poser des questions et à dire « Docteur, qu'est-ce que vous pensez du vaccin ?» Voilà. Et c'est difficile de convaincre, en fait, par des arguments rationnels. Enfin, ça, c'est mon expérience de médecin. Et ce qui fonctionne avec le patient, en fait, dans la proximité de la relation du médecin traitant avec son patient, ce sont les affects. Et en fait, quand le médecin dit tout simplement à son patient, écoutez, je pense qu'il faut faire ce vaccin, il entend cette parole. Et il peut poser des questions, mais il n'en pose pas énormément. Mmh. Voilà. Et c'est surtout, c'est pour ça que ce n'est pas par des éléments vraiment rationnels qu'on convainc, mais ça se fait dans la relation intime entre le médecin et son patient. Mmh. D'expérience, c'est ça.
Il y a quand même quelques points spécifiques à ce vaccin, enfin en tout cas je pense aux deux premiers qui sont sur le marché maintenant, qui ont suscité des interrogations et qui j'imagine ont nécessité un peu de pédagogie du fait de leur technologie assez spécifique, avec cette question d'ARN messager. J'imagine que là-dessus il y avait des questions, et c'est quoi les arguments qu'on peut déployer du coup pour répondre aux éventuelles craintes?
Oui. Alors là, effectivement, sur des gens qui posaient des questions spécifiques sur l'ARN ou qui commençaient à donner des arguments en disant « mais quand même, ce vaccin a été fait vite, on ne connaît pas très bien les ARN ». Bon, Donc, moi, j'ai eu effectivement un discours. C'est difficile de faire un cours de biologie cellulaire à un patient ou à quelqu'un qui ne connaît pas très bien déjà la biologie, les bases, ce que c'est qu'un noyau, ce que c'est que la cellule, ce que sont les organites qu'il y a dans le cytoplasme de la cellule, etc. Ce que c'est qu'un ARN messager. Bon, donc, on a essayé d'expliquer, d'imager un petit peu et d'expliquer que dans toutes les cellules, en fait, il y a des ARN messagers et que les ARN messagers, on en mange toute la journée, puisque quand on mange une orange, eh bien, dans les cellules d'orange, il y a des cellules, donc il y a des noyaux, il y a aussi des ARN messagers. Après, j'ai aussi, il y avait dans les arguments, il y avait le fait que lorsqu'on attrape un virus, la majorité des virus sont des virus à ARN, et donc quand on attrape une rhinopharyngite banale, eh bien, l'ARN du virus, eh bien, se retrouve dans nos cellules. L'autre argument aussi que j'utilisais beaucoup quand il y avait à convaincre, c'était de dire que les vaccins, en fait, on n'a jamais eu vraiment de problème avec les vaccins. Donc, il y a eu des histoires, effectivement, sur, par exemple, le vaccin contre l'hépatite B et le lien qui avait été fait avec la sclérose en plaques. On sait aujourd'hui que, finalement, il n'y a pas de lien entre les deux. Et que, au moment où on a commencé à vacciner beaucoup contre l'hépatite B, dans les années 90, c'était aussi l'avènement de l'IRM cérébral, hein, donc une imagerie beaucoup plus précise que les scanners qu'on faisait avant. Et donc, on a dépisté, en fait, via l'IRM cérébral, énormément de sclérose en plaques. Et ça s'est passé au même moment, c'est-à-dire dans les années 90. Et il y a effectivement un lien qui avait été donc fait, parce qu'on avait beaucoup de gens vaccinés, beaucoup de gens qui avaient des IRM cérébrales, mais corrélation n'est pas causalité, et on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien. Mais ça a quand même marqué les esprits. Et donc, les gens pensent... Alors, il y a énormément de choses sur les vaccins. Par exemple, pour les adjuvants, hein, les fameux adjuvants, l'aluminium, etc. Bon, ça aussi, il était facile de montrer que dans l'alimentation, on mangeait énormément plus d'aluminium que la petite dose. C'est à 100 fois, voire 1000 fois plus que la petite dose d'aluminium qu'il peut y avoir dans un vaccin. Donc, là, en plus, il n'y a pas d'adjuvant, en fait, dans le vaccin, en tout cas le premier vaccin ARN de Pfizer. Donc, ça a été des explications parfois de biologie cellulaire qu'on a pu faire à des patients.
Il y avait une question aussi sur la rapidité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le fait que une partie de la méfiance a été alimentée par la mise sur le marché. C'est vrai, extrêmement rapide vu l'histoire de la médecine, même l'histoire de la vaccination de ce vaccin pour une maladie qui finalement n'est apparue qu'il y a un an.
Oui. Alors là-dessus, il faut savoir que sur les ARN messagers, enfin, les chercheurs travaillent depuis plus de 20 ans sur les ARN messagers et sur la production de protéines, que ce soit en oncologie ou en virologie. Donc, c'est quelque chose, en fait, où il y a un travail qui était déjà fait depuis très longtemps. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça en un an. Par contre, ce qui a été évidemment très rapide et tant mieux, c'est que très rapidement, le génome a été séquencé très rapidement, donc on l'a connu très rapidement par les Chinois, qui l'ont effectivement après transmis donc au reste de la communauté internationale, qui a travaillé donc de suite sur le vaccin. Enfin, il y a eu plusieurs types d'ailleurs de vaccins à partir de ça. Donc il y a eu un coup d'accélérateur, hein, ça a été un catalyseur, et il y a aussi énormément de moyens qui ont été mis en place. Donc, je pense que ça a été vite, non pas par imprudence, mais ça a été vite, surtout parce qu'il y avait une urgence sanitaire, mais il y avait une connaissance quand même des ARN messagers, de produire une protéine à partir d'un ARN messager. C'est quelque chose qui est très, très connu. On connaît très bien, on sait que l'ARN messager est très fragile, donc ça aussi, les gens avaient peur que l'ARN messager reste dans la cellule d'abord. Bon, après, ça a été la question du noyau, mais déjà reste longtemps, mais alors qu'on sait très bien que ça se dégrade très rapidement. Donc, on connaît très bien les ARN messagers. Après, sur la rapidité, effectivement, du vaccin, bon, la recherche a été rapide, c'est vrai, mais elle datait pas d'il y a un an, en fait, c'est ça, voilà. Alors, j'ai expliqué aussi aux patients, ça, c'était important aussi à certains patients, l'étude, comment ça s'est passé, cette étude de Pfizer, voilà, d'expliquer comment ils arrivent à 95% de bénéfices et de protection. Donc voilà, d'expliquer aux gens ben voilà, qu'ils ont pris un pool de 40 000 personnes, qu'il y a sur ces 40 000 personnes, eh bien, 20 000 qui ont reçu une dose du vaccin. 20 000 ont reçu un placebo, hein, donc de l'eau. Et on a suivi ces gens dans le temps. Et on s'est aperçu qu'il y a à peu près 200 personnes, en fait, sur ces 40 000 donc, qui avaient eu le Covid. Et on a regardé ceux qui étaient vaccinés et ceux qui ne l'étaient pas. Et en fait, il y en avait une vingtaine qui étaient vaccinés. Et les autres, donc les 180 autres, n'avaient pas reçu le vaccin. Donc ça, c'est important aussi de faire œuvre de pédagogie, parce que c'est des choses simples, on va dire, mais... C'est important que les gens aussi comprennent comment ça s'est passé. Voilà.
Vous avez parlé du mot bénéfice. C'est un terme qui est aussi utile pour faire de la pédagogie justement autour des vaccins, mais sur une notion très spécifique qui est celle des bénéfices-risques, la balance bénéfice-risque, qui en fait se pose à chaque fois qu'on doit faire une vaccination ou qu'on doit faire une opération ou un acte médical un peu invasif, un minimum invasif, à chaque fois la question se pose.
Oui, alors c'est vrai, oui, voilà. Donc ça aussi, ça a été un axe important de pédagogie vis-à-vis des patients sur les risques, en fait, hein, parce qu'il pose la question des risques. Hein. Alors nous, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'en France, ça a commencé un peu plus tard, la vaccination, et donc on avait déjà... énormément de pays qui avaient déjà vacciné et qui avaient déjà un recul, hein, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Israël. Donc, il y avait effectivement déjà, les gens avaient été vaccinés et on savait très bien que globalement, ça se passait bien, qu'il y avait beaucoup moins d'effets indésirables, en plus chez les personnes âgées qui toléraient beaucoup mieux le virus que les jeunes, hein, sûrement parce que la réaction immunitaire est peut-être moins forte chez le sujet âgé que chez le sujet jeune. Mais globalement, voilà, on pouvait dire aux patients, puisqu'on avait ce décalage, les rassurer en disant, écoutez, ça se passe quand même très bien, il y a très très peu d'effets indésirables. Mmh. Voilà. Et même dans les études, déjà, il y avait très peu d'effets indésirables, et que comparé au groupe placebo, finalement, parfois, on avait plus d'événements indésirables chez le groupe placebo. Mmh. Maintenant, évidemment, ce n'était pas que sur le groupe vaccin, mais ce n'était pas lié au groupe placebo. C'est que, si vous avez un accident vasculaire, les maladies continuent à arriver, par exemple, que vous soyez vacciné ou non, sans qu'il y ait de lien de causalité particulier.
C'est quoi les publics les plus durs à convaincre? Parce que vous avez l'habitude de travailler à la fois en population générale, j'ai envie de dire, et en EHPAD. Est-ce que les plus anciens sont les plus durs à convaincre? Ou est-ce que il y a une habitude peut-être plus à la parole du médecin chez les plus anciennes générations, qui sont moins méfiantes peut-être que les quinquas, sexagénaires?
Chez les anciens, vous avez toujours un petit résidu, on va dire, d'anti-vaccin, mais ils sont très, très peu nombreux. Et donc, généralement, c'est « Ah non, je ne me fais jamais vacciner, docteur. Je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe. » Bon, mais sinon, globalement, c'est des gens qui ont la culture du vaccin. Ils savent ce que c'est que la polio. Ils savent ce que les vaccins ont apporté parce qu'ils ont connu les maladies. Donc, généralement, les anciens sont assez pro-vaccination. En plus, c'est un public assez facile à convaincre parce que, comme je vous l'ai dit, par la relation au médecin traitant, il y a une confiance importante au médecin traitant. Donc, ce n'est pas le public le plus difficile. Le public le plus difficile, ça reste finalement... Alors, certains types de personnalités, donc, dans la population générale, là, hein, donc, ça concerne les 40-75 ans, hein, vous avez effectivement certaines personnalités qui vont toujours chercher à parler du complot, où les laboratoires veulent se faire de l'argent, etc., ce qui n'est pas entièrement faux, évidemment, mais alors ceux-là sont beaucoup plus difficiles parce qu'on les sent déjà dans un processus psychologique où on se dit là, ça va pas être possible. C'est-à-dire qu'on va toujours nous sortir c'est l'intérêt des laboratoires, ou encore j'ai entendu récemment, mais non, Macron n'a pas eu le Covid, on nous fait croire qu'il a eu le Covid. Les politiques, est-ce que vous comprenez que certains politiques veulent pas se faire vacciner? Bon, comme si c'était des hommes de science, en plus. Bon. Donc là, ça, c'est une marge de la population. Voilà. Après, la grande partie de la population, comme je vous le disais, non, c'est des gens, en fait, qui vont... Voilà, dans la relation médecin-patient, généralement, ça passe assez bien, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est peut-être plus compliqué lorsqu'il y a cette séparation, finalement, avec les médecins traitants. Parce que là, avec Pfizer, c'est un petit peu, quand même, qui se joue. vu que logistiquement, c'est quand même compliqué. Maintenant, dès qu'il y aura des vaccins simples, comme pour la grippe, à acheter en pharmacie, et alors là, la vaccination, je veux dire, en 2 mois, c'est réglé, évidemment. Je pense, hein, vraiment, en tout cas sur les populations fragiles, puisque les populations fragiles, elles vont voir leur médecin traitant, hein, les gens de 75 ans ou les malades chroniques vont voir leur médecin traitant.
C'est intéressant, cette notion, c'est peut-être qu'une des portes de sortie, si je comprends bien, c'est de faire plus reposer ce système sur les médecins traitants, ce qui est une demande en plus de la part d'une bonne majorité de vos collègues, de ce que j'ai compris, plutôt que d'externaliser, de refaire la fameuse stratégie des vaccinodromes de Bachelot ou ce genre de choses qui, on le sait, marchent assez mal.
Oui, alors bon, c'est comme tout. Là, c'est vrai que le vaccinodrome, d'un côté, ça peut être bien quand la question logistique, parce que très honnêtement, le vaccin Pfizer où vous devez conserver le flacon que 5 jours dans votre réfrigérateur, avec un rappel 3 semaines après, avec 6 doses dedans, donc il faut que vous ayez vos 6 patients. Enfin, c'est une organisation logistique dans un cabinet médical, c'est quand même très compliqué. Donc là, je pense que pour ce vaccin-là, et comme c'est le premier qu'on avait, il était bon de, effectivement, favoriser la solution des vaccinodromes pour au moins déjà commencer. Parce que en pratique de ville, ça n'aurait pas été possible. Par contre, lorsqu'il y aura des vaccins, effectivement, où vous irez chez le pharmacien, il sortira le vaccin du frigo et vous irez, comme pour le vaccin pour le grippe ou tous les autres vaccins, chez le médecin, là, effectivement, il y aura un coût d'accélération, bien évidemment, je pense, de la vaccination. Voilà. Mais on voit que les choses sont complexes parce que ça ne dépend pas que simplement du médecin, ça dépend et de la bonne volonté des médecins, ça dépend aussi de type du vaccin et de la logistique que ça demande.
Vous êtes vacciné, vous ?
Oui. Alors donc, moi, je me suis vacciné. Alors ça aussi, c'est un argument aussi important pour les patients, parce que et très rapidement, je dis, ben voilà, vous savez, moi, je l'ai fait, ça va. Bon, j'ai eu quand même un petit peu mal un jour au niveau du muscle, mais ça a duré une journée ou deux, mais pas plus. Mais c'est un argument important. Et souvent, aux sceptiques, il arrive très souvent, je leur dis, mais vous savez, tous les médecins se sont fait vacciner. Enfin, moi, je suis sur un groupe WhatsApp des médecins de Clichy. Enfin, je veux dire, tout le monde s'est fait vacciner. Donc, la grande majorité des médecins savent qu'il faut se faire vacciner. Après, il y a l'argument aussi du bien public. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne fait pas aussi, et ça, je pense que c'est par rapport aux jeunes générations. Après, c'est ce qu'il faudra, l'argument aussi qu'il faudra développer. C'est que dans les personnels difficiles à convaincre, vous avez aussi les personnels, parfois les infirmières, les aides-soignantes, dans les établissements médico-sociaux, dans les EHPAD, dans les MAS, dans les hôpitaux. C'est difficile parfois à convaincre, hein, même si ça progresse, hein, parce qu'il y a eu un grand scepticisme. Voilà. Et la question du bien public, c'est-à-dire que donc là, ici, on leur explique que effectivement, c'est aussi une question d'altruisme, là. C'est-à-dire qu'on ne se vaccine pas que pour soi, on vaccine aussi pour protéger à la fois ses parents, ses grands-parents, les gens à risque qui sont aussi autour de nous, les plus vulnérables. Donc, c'est aussi une question de bien public pour l'ensemble de la société, parce que plus on sera vacciné et plus on en aura fini aussi, et on pourra dépasser aussi cette situation actuelle qui est quand même assez catastrophique.
Par ailleurs, il n'est pas incompatible de défendre l'idée de la vaccination comme solution de sortie de crise, tout en interrogeant, par exemple, le modèle des labos qui capitalisent souvent sur des situations critiques en ayant peu de comptes à rendre. L'un n'empêche pas l'autre. Merci à Hugues Ben Saïd pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.